Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue et en compagnie de moi-même et Bernard pour vous présenter la leçon numéro 9 de ce deuxième trimestre de l'année 2009 pour la semaine du 23 au 29 mai. Le thème de cette semaine est...
Oui Dominique, le thème c'est le ciel.
Et nous avons toujours notre verset à mémoriser que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 2 et 3.
Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Nous trouvons ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 2 et 3. Et la pensée centrale, c'est la suivante.
Pourquoi cette promesse de la vie future au ciel est-il si importante pour nous? À quoi ressemblera notre vie là-haut? En avons-nous un avant-goût ici-bas? Quel destin attend ceux dont les choix les excluent du ciel?
Pour un grand nombre de gens, le mot « ciel » a perdu toute signification. C'est devenu un concept appartenant au domaine des contes de fées. « Nous nous illusionnons nous-mêmes, disent-ils, en pensant qu'il existe une forme de vie au-delà de l'existence terrestre. Certains vont même jusqu'à dire qu'il n'est pas bon de croire que le ciel existe. Selon eux, cela empêcherait les gens de consacrer leurs efforts à la réalisation des tâches qu'ils doivent accomplir ici-bas. »
Même de nombreux chrétiens ne sont pas au clair sur ce sujet. Ils ne sont pas certains que le ciel soit un lieu bien réel. Ne serait-ce pas plutôt un état d'esprit? Par ailleurs, de nombreuses personnes croient qu'à la mort, l'âme est libérée et qu'elle entre au ciel pour vivre auprès de Dieu. Ils ont la certitude, ainsi que leur père, leur mère, époux, épouse ou enfant, enfin toute personne proche les ayant précédés dans la mort, se trouve maintenant avec Dieu au ciel et que seulement quelques années tout au plus les séparent de leur bien-aimé. Quelle est donc la vérité sur ce thème si important? C'est ce que nous sommes invités à découvrir tout au long de cette semaine.
Voilà, donc... Nous avons la journée du dimanche 24 mai 2009, et là, l'interrogation est la suivante.
Quand irons-nous au ciel?
Il est surprenant que l'idée d'une âme immortelle, se dissociant du corps physique et montant au ciel juste après la mort, soit aussi courante parmi les chrétiens. Satan s'est habituellement emparé des idées des philosophes grecs pour répéter le mensonge qu'il avait prononcé en Éden, « Vous ne mourrez pas », Genèse 3, verset 4.
Nous allons donc prendre maintenant quelques passages pour voir ce qu'est vraiment la mort dans les Écritures. Et je vous invite donc avec Bernard à lire tout d'abord dans les psaumes, le chapitre 13, les versets 4 et 5.
« Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. » Nous continuons avec un texte tiré de l'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 5 et le verset 10.
Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Voici pour le verset 5. Et le verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts où tu vas. » Nous poursuivons avec un texte dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 à 53.
« Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité.
Lorsque nous mourons, nous entrons dans un état d'inconscience que la Bible compare à un sommeil. Inconscients de ce qui se passe dans le monde, nous attendons le matin de la résurrection. C'est alors seulement que la foule des rachetés entrera au ciel pour rejoindre ceux qui les auront précédés, tels que Enoch et Élie. L'attente cependant ne dure pas. Nous fermons les yeux au moment de la mort et la première chose que nous réalisons ensuite, c'est que le Christ est de retour.
En d'autres termes, qu'il soit mort il y a 3000 ans ou la veille de son retour, cela ne fera aucune différence pour ceux qui mourront en Christ. Après qu'ils auront fermé les yeux au moment de la mort, la seule chose dont ils auront conscience ensuite, c'est que Jésus est venu les chercher. Tout semblera s'être passé de façon instantanée.
Et continuons à scruter les Écritures pour rechercher quelle est la vérité glorieuse liée à notre entrée future dans le royaume céleste. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3.
Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons d'autres textes à vous proposer, et un autre texte se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens. Nous lirons tout d'abord, au chapitre 4, les versets 13 et 14.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Et nous continuerons avec les versets 15 et 16.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et nous terminons avec le verset 17.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Dans le Nouveau Testament, l'espérance bénie ne porte pas l'attention sur la mort individuelle, mais sur le retour du Christ, ainsi que sur la résurrection et l'enlèvement des saints, qui le rencontreront ensemble au même moment. C'est en cet avenir, et non en ce qui se passe à la mort, que les saints trouveront du réconfort. C'est encore un extrait d'un livre de Norman Gouly, Christ is Coming, un livre en anglais.
Et à la fin de ce dimanche, nous sommes invités à nous poser les questions suivantes. Pourquoi la promesse d'une vie au ciel est-elle si importante pour nous? S'il n'y avait pas de ciel, s'il n'y avait rien d'autre que cette vie, quelle espérance aurions-nous?
Étudier à ce sujet justement avec la journée du lundi 25 mai 2009. Et là, il s'agira de
se poser la question, le ciel ou l'enfer?
Tous ne seront pas sauvés. Certains seront éternellement perdus. Les êtres humains ont été créés libres de leur choix. Quelqu'un l'a exprimé ainsi. Il existe deux sortes de gens. Ceux qui disent, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et ceux à qui le Seigneur dit, je respecte votre choix et que votre volonté soit faite. »
Personne, finalement, n'a demandé à naître. Nous sommes sur terre uniquement parce que nous avons été créés, mais sans avoir été consultés. Dieu nous offre l'espérance de la vie éternelle, à nous de l'accepter. Si nous refusons son offre, nous retournerons au néant d'où nous venons. Ce sera alors notre choix.
En fait, l'humanité tout entière ne peut s'attendre qu'à l'un de ces deux destins. Et lisons encore quelques textes. Tout d'abord, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 29.
« Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » Nous continuons avec Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 4.
Et tout d'abord, les deux premiers versets. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Versets 3 et 4.
« J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et nous prendrons encore un verset dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 8.
« Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, et cela, c'est la seconde mort. »
Le ciel est bien réel, c'est un lieu précis. C'est l'endroit où Dieu habite avec les autres membres de la divinité et une armée d'anges non déchus. C'est également le lieu où nous vivrons, si nous restons dans le camp de Dieu. Quand le Christ reviendra, quand la première résurrection aura lieu, les saints ressuscités accompagneront le Seigneur au ciel, où ils demeureront pendant 1000 ans. C'est ce que nous déclare Apocalypse 20, versets 4 à 6. Au bout de 1000 ans, une série d'événements aura lieu, culminant par la création d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, où les rachetés vivront pour toujours. Apocalypse 21, 1.
Mais la mort éternelle est aussi une réalité. La croyance populaire en un lieu où les pécheurs seront tourmentés et brûlés éternellement n'a aucun fondement biblique. Mais le salut universel n'est pas biblique non plus. Ceux qui rejettent la bonne nouvelle du salut et refusent d'obéir à Dieu, ils seront jugés et condamnés. Ils auront à affronter une mort dont jamais ils ne ressusciteront. Ceux qui pensent que tous les hommes seront sauvés croient qu'un Dieu d'amour ne permettra à personne de ne pas connaître un bonheur éternel. Ils ont raison dans la mesure où Dieu est amour et son désir est de sauver tous les hommes.
Malheureusement, tous ne répondent pas au salut offert par Dieu. Jésus-Christ lui-même l'affirme, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Nous trouvons ce passage dans Jean, chapitre 5, les versets 24 et 29. Tout dépend donc de nous. Si nous faisons le choix de croire en Dieu, si nous désirons devenir les disciples de Jésus-Christ, son Fils, le ciel nous est offert. C'est donc bien à nous de choisir.
Voilà, cette journée du lundi se termine. L'étude du mardi 26 mai, et là nous allons parler du
royaume, ici et maintenant.
Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, une nouvelle vie commence. Malgré les conséquences du péché, la vieillesse, la maladie et le sommeil temporaire de la mort, bien sûr, nous recevons aujourd'hui de façon très réelle la vie éternelle. Ne perdons pas de vue ce fait crucial. Spirituellement, nous sommes nés de nouveau et nous avons une vie nouvelle en Christ.
Ceux qui acceptent le Christ sont appelés enfants de Dieu dans 1 Jean 3, verset 2. Ils sont passés de la mort à la vie, tel qu'il nous l'est dit dans Jean 5, 24. Ils sont devenus citoyens du royaume de Dieu en intégrant les valeurs de celui-ci dans leur vie. Ils ont désormais un nouveau maître et leur regard se porte finalement non plus sur les choses passagères de ce monde, mais sur la cité éternelle.
Eh bien, comment Jésus a parlé de la citoyenneté du royaume à ses disciples ici et maintenant? Nous allons le lire dans deux textes. Tout d'abord un premier qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 17 et les versets 20 et 21.
Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas « Voyez, il est ici » ou « Il est là » car « Voyez ». Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et nous continuons avec le texte de Jean, chapitre 14, verset 27.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas.
Et nous allons voir maintenant comment les paroles de Paul confirment encore cette vérité. Nous allons prendre l'évangile, l'épître aux Romains, chapitre 14, verset 17.
Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et un autre texte que nous trouvons dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14.
Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
Allons plus loin. La réalité du royaume céleste à laquelle nous prenons part, alors même que nous sommes encore sur terre, n'est qu'un avant-goût de l'héritage à venir. C'est pourquoi nous aspirons à plus. Quand Jésus reviendra en gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, nous dit Matthieu 25, verset 32. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Les enfants de Dieu aspirent à cela. Ils seront enfin chez eux. »
L'amitié des rachetés de Jésus-Christ est préférable à toutes celles que l'on peut trouver dans le monde. L'accès aux demeures qu'il est allé nous préparer est bien plus précieux que la possession de somptueux palais. Les paroles que le Seigneur adresse à ses fidèles serviteurs valent bien mieux que les louanges terrestres. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est ce que nous rappelle Ellen White dans un passage de son livre « Les paraboles de Jésus ».
Et ainsi s'achève cette journée du mardi 26 mai. De cette étude avec le mercredi 27 mai. Et là, il s'agira de...
Au-delà de nos espérances les plus folles.
Vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait votre vie au ciel et sur la nouvelle terre? Nous reconnaîtrons-nous les uns les autres? Jouirons-nous d'une jeunesse éternelle? Que ferons-nous une fois là-bas? Aurons-nous nos propres activités? Ou ne ferons-nous que chanter les louanges de Dieu?
Voyagerons-nous vers d'autres endroits de l'univers? Quels souvenirs garderons-nous de notre existence terrestre? Nous ne sommes pas les premiers à poser de telles questions. Que voulaient d'ailleurs savoir les Sadducéens sur ce qui se passe après la mort? Pour le savoir, prenons le passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 22, des versets 23 à 30, et nous commençons avec les versets 23 et 24.
Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un mort sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. »
Nous continuons avec les versets 25 à 28. « Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle donc la femme? Car toutes l'ont eue. »
Et nous terminerons avec les versets suivants. Jésus leur répondit. « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. »
La déclaration de Jésus rapportée dans ce passage de Matthieu que nous venons de lire fait partie d'une discussion avec les Sadducéens. Ces derniers représentaient un groupe de dirigeants juifs qui niaient la possibilité d'une résurrection corporelle. Il est clair que Jésus n'avait pas l'intention de leur faire une description complète de ce qu'impliquait la vie éternelle.
Le contexte montre clairement que Jésus voulait souligner le fait que la mort avait été vaincue. Il porte l'attention au-delà de la mort et de la résurrection. Ceux qui meurent sont en sécurité au fond de sa mémoire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu des vivants.
Examinons maintenant ce qui aura disparu sur la nouvelle terre. En lisant dans Apocalypse chapitre 21, les versets 1 et 4.
Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous poursuivons avec le chapitre 21, toujours d'Apocalypse, mais les versets 22 à 24.
Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et nous continuons avec les versets 25 à 27.
Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.
Nous venons de lire que sur la nouvelle terre, il n'y aura plus de mer. Ceux qui aiment la mer risquent d'être déçus. Il y a 2000 ans, la mer était une menace. Israël n'a jamais été une nation maritime. Ce peuple craignait les profondeurs sombres de la mer. D'après les récits évangéliques, le fait même de traverser la mer de Galilée pouvait être d'ailleurs une expérience terrifiante.
Pour le rédacteur de l'Apocalypse, tout ce qui menace la vie de l'homme aura disparu dans le nouveau monde créé par Dieu. Nous serons éternellement en sécurité. Et pour conclure, essayons d'imaginer, pour cette journée, donc, essayons d'imaginer un monde où il n'y aurait plus de maladies, plus de morts, ni de peurs. Un monde où nous ne ferions que croître en connaissance et en amour. Réfléchissons à ce qui nous donne dès maintenant un aperçu des choses qui nous attendent dans le royaume céleste. Et ainsi s'achève cette journée du mercredi 27 mai.
continuer toujours dans le même thème, nous allons entreprendre la journée du jeudi 28 mai 2009 avec comme titre et comme thème
« À la rencontre du Seigneur de l'univers ».
Sur la nouvelle terre, nous serons certainement capables de reconnaître ceux que nous avons connus dans cette vie. Notre corps ressemblera à celui du Seigneur ressuscité. Quand Jésus est apparu à ses disciples après la résurrection, il était clairement reconnaissable par ceux qu'il avait accompagnés avant sa mort. Quelle joie ineffable ce sera d'être réunis avec nos bien-aimés décédés.
Mais la plus magnifique expérience de toutes sera notre rencontre avec le Seigneur de l'univers. Nos chants deviendront alors bien réels. Face à face, nous le contemplerons bien au-delà du ciel étoilé. Quel privilège que celui de se sentir devant l'alpha et l'oméga de l'univers.
Mais d'où nous vient la certitude d'une telle rencontre avec le Seigneur des Seigneurs ? Eh bien, trouvons la réponse en lisant 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 à 17.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous avons un autre texte maintenant dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 22.
Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau.
Nous ne pouvons guère imaginer un tel rendez-vous. Combien de questions aurons-nous à poser à Jésus ? Les « pourquoi » que nous avions si souvent sur les lèvres auront une réponse définitive. Nous comprendrons enfin pourquoi Dieu a permis certaines épreuves et certaines tentations au cours de notre existence terrestre.
Jamais plus nous ne douterons de la sagesse et de la bonté de Dieu. Toute méfiance se dissipera quand nous apprendrons pourquoi Dieu a permis à certains événements de se produire. Nous réaliserons pleinement combien nous avons été protégés de toutes sortes de dangers.
Eh bien, nous allons lire maintenant quel sera l'un des aspects majeurs de la vie éternelle. Et nous trouvons ces textes, tout d'abord dans l'Épître aux Romains, chapitre 14 et le verset 11.
« Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Continuons avec 1 Timothée, chapitre 1, verset 17.
Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et un dernier texte pour cette journée, Apocalypse 5, verset 13.
Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. »
Vivre éternellement reviendra à chanter éternellement les louanges de notre roi et à l'adorer. Pourquoi ? Parce qu'il en est digne. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, ait consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme, restera donc éternellement un sujet de stupeur pour l'univers.
Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, chaque fois qu'ils penseront que son trône subsistera d'éternité en éternité et que son règne n'aura pas de fin, leur ravissement s'exprimera par le chant « Digne est l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son précieux sang ». Voici la promesse que nous trouvons dans Ellen White, dans un passage de son livre « La tragédie des siècles ».
Nous arrivons maintenant à la fin de cette étude, à la fin de cette semaine également, avec le vendredi 29 mai 2009.
Qui nous propose pour aller plus loin.
Oui, Encore quelques citations, tirées principalement d'Ellen White, en tout cas aujourd'hui. Voici ce qu'elle nous dit tout d'abord. « Ellen White a beaucoup écrit sur le ciel et notre arrivée dans le royaume céleste. Les premiers chapitres de la tragédie des siècles font une description sublime de ce qui nous attend. »
Et voici. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. » Apocalypse 21.1. Le feu qui a consumé les méchants a purifié la terre. Toute trace de malédiction a disparu. Aucun enfer éternel ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Il en restera toutefois un souvenir. Notre Rédempteur gardera à jamais les cicatrices de sa crucifixion. Seule sa tête, ses mains et ses pieds garderont les traces cruelles que le péché a produites.
Tiré du livre Ellen White, l'histoire de la rédemption. Et voici maintenant quelques lignes à méditer. Comment parler du salut avec ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus? Le fait que Jésus soit mort pour tous les pécheurs, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, nous permet-il d'avoir la certitude que Dieu ne les a pas oubliés non plus?
La Bible décrit la mort comme un sommeil, comme un état d'inconscience. Alors comment expliquer les expériences de retour à la vie après une mort clinique, par exemple, à l'occasion desquelles les gens déclarent avoir vu des êtres célestes, des amis ou des proches décédés dans une lumière éblouissante? Comment aider ces personnes à réaliser que leur expérience n'était pas forcément ce qu'elles semblaient être? Comment leur faire comprendre que leurs sens ont été abusés, aussi réels que semblait cette expérience?
Et voici, pour terminer cette semaine, le résumé qui nous est proposé. Notre destinée se prolongera bien au-delà de notre courte existence dans le monde présent. Nous sommes les citoyens d'un royaume céleste, royaume à la fois présent et futur. Il est déjà présent dans notre vie, mais il nous apparaîtra pleinement dans toute sa gloire quand le Christ reviendra pour nous emmener avec lui. Nous vivrons alors éternellement en présence de Dieu. Et ainsi s'achève cette semaine d'études. Nous serons heureux de vous retrouver, bien sûr.
La semaine prochaine.
À bientôt, chers amis.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.
Is love.